Donc la quadruple distinction de la cérémonie de Malte dimanche dernier, donc organisée par l'Académie européenne du cinéma, a fait du film le meilleur film, le réalisateur le meilleur réalisateur, ses deux interprètes les meilleurs interprètes masculins et féminins. Il se trouvait, je crois, les votants, parce que c'est une académie, donc ce sont des professionnels des différents pays qui se prononcent devant un choix extrêmement simple. Avoir amour, on ne peut que être absolument stupéfait que ce genre de film se réalise, que ce genre d'acteur réalise de telles performances, et que ces performances soient au service d'un thème d'une extraordinaire acuité, d'une extraordinaire exigence et même d'une urgence. Même si le film étant une coproduction franco-germano-autrichienne, elle a sans doute pu bénéficier du soutien de ces trois pays, ce qui lui donnait quelques chances de plus qu'un autre film, un film flamand d'ailleurs, qui s'appelle Hasta la Vita, et qui a eu le prix du public, comme faisait remarquer le réalisateur que je voyais l'autre jour sur la quatrième chaîne flamande. C'est au départ d'une communauté beaucoup moins importante que son film s'est trouvé distingué, à juste titre d'ailleurs. Hasta la Vita est un film très très intéressant. Mais ici, la sensation du chef-d'œuvre, c'est quelque chose de réellement stupéfiant. C'est surtout dans des œuvres, dans des arts qui sont des arts de la durée. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une œuvre plastique, un tableau, une sculpture, on a instantanément le choc de l'œuvre. Dans le cas de musique, de littérature, ou de cinéma, ou de théâtre, on s'inscrit dans une durée. C'est-à-dire qu'on sent quand quelque chose se manifeste, qui est accompli, qui est prenant, qui est émouvant, mais on a cette espèce d'inquiétude de se dire, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va parvenir au terme de l'ouvrage sans déception? Or, cette déception, elle est fréquente, même sur des très grands accomplissements. Je songe, par exemple, à Traviata, qu'on peut voir actuellement à la Monnaie. Il m'a quand même semblé qu'indiscutablement, la Traviata, c'est une musique extrêmement géniale sur un argument qui est de plus en plus dérisoire. Ici, évidemment, dès le départ du film, la barre est placée très haut, mais avec une grande discrétion. La première scène, au quasi, est simplement un petit déjeuner, où le vieux couple, incarné par Emmanuel Riva et Jean-Louis Trintignant, est affronté un petit problème, c'est que en mangeant un œuf à la coque, le mari se rend compte qu'il n'y a pas de sel sur la table, et puis quand il va chercher la salière, que la salière est vide. Donc, on a déjà cette idée qu'il y a eu un manque d'attention, qu'il y a peut-être une distraction, qu'il y a peut-être un oubli. Ce phénomène totalement dérisoire va se révéler évidemment le premier indice de ce qui advient à la femme, c'est-à-dire perte de mémoire, perte d'attention, et qui va à un moment donné d'ailleurs se confirmer assez vite lorsque elle va avoir une absence pendant ce même petit déjeuner de quelques instants, et puis elle va reprendre ses esprits, elle va ne pas se souvenir du tout de cette absence, mais elle va verser le café à côté de la tasse. Ce que dit très bien Léonard de Vinci sur la puissance que l'art a de donner aux petites choses leur noblesse, est là merveilleusement illustrée. Et ce sera le cas tout au long du film, qui ne nous montre pour l'essentiel que des gestes extrêmement simples, mais des gestes aussi qui sont limites. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'assistance qui amène que le mari doive, par exemple, accompagner sa femme à la toilette, que ce soit lui qui veille à ce que les choses se passent correctement. Il y a une caméra fixe qui cadre cette scène à la fois dans ce qu'elle a de complètement basique et en même temps de sublime. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le même phénomène que la peinture de Vermeer, qui arrive elle aussi à exalter des gestes simples de la vie ou même des gestes qui font partie de l'intimité absolue de chacun, donc qui n'est partagé par personne en temps normal. Or, il se trouve que le pacte qui lie les deux protagonistes est celui que dès qu'il apparaît clairement que la femme est gravement handicapée, elle ne veut pas et il lui promet qu'elle n'ira pas ni dans une maison de soins, ni dans une maison de vieillesse, et que donc ils finiront ensemble, ou en tout cas, elle finira sur place. Et ça donne un film qui est, au fond, à 50 ans de distance, à peu près, un jalon aussi important dans l'histoire du cinéma que À bout de souffle. Sauf qu'ici, on est à bout de vie. Et on est à bout de vie, pourquoi ? Parce que, et ce n'est jamais dit dans le film, parce que ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un constat, c'est une fiction, disons-le, c'est une fiction, c'est une transformation d'une expérience humaine en une œuvre d'art. Perdons pas ça de vue un instant, parce qu'on pourrait très bien estimer qu'on est dans du cinéma vérité. On n'est pas du tout dans le cinéma vérité. D'ailleurs, il nous a été dit clairement dans les informations qui accompagnaient la sortie du film que cet appartement est entièrement reconstitué en studio, que tout est fake, comme on dit, que le travail de prise de vue, le travail d'éclairage est extrêmement discret, mais d'une extraordinaire maîtrise. Et puis aussi, qu'on a là devant nous deux artistes, deux comédiens, deux très grands comédiens, que sont Trintignant et Riva, qui ont d'ailleurs tous les deux des parcours assez différents, parce que Trintignant, qui a tourné plus d'une centaine de films, a accompagné le cinéma depuis l'époque d'À bout de souffle. Souvenons-nous de Trintignant et Brigitte Bardot dans Adieu crie à la femme de Vadim, c'était dans ces années-là, c'est les fins des années 50, jusqu'à aujourd'hui, à peu près sans interruption, et en rencontrant fréquemment des réalisateurs importants dans différents pays, puis a tourné en Italie aussi. Hein. Et de l'autre côté, vous avez Riva, et ça nous ramène encore une fois à la fin des années 50, parce que quel est le grand rôle d'Emmanuel Riva dans l'histoire du cinéma? C'est Hiroshima, mon amour, de René. Et elle nous revient un demi-siècle plus tard dans ceci, non sans avoir fait des choses intéressantes. Et je voudrais signaler que au moment où sort sur les écrans maintenant la nouvelle version cinématographique par Claude Miller de Thérèse de Kérou, Thérèse de Kérou avait été adaptée par Georges Franju, toujours au début des années 60, avec Emmanuel Riva dans le rôle. Et elle donc, qui est quelqu'un, avant tout une comédienne de théâtre, mais qui donc jalonne un peu le cinéma français ou le cinéma d'inspiration française, parce qu'il y a aussi cet élément qui montre à quel point le cinéma est un art international et en particulier en Europe, puisque c'est un réalisateur germanique ayant fait l'essentiel de sa carrière en Autriche, même s'il est d'origine allemande, qui tourne ce film en français à Paris, avec des acteurs français. Ce qui est un formidable enrichissement, d'ailleurs, parce que je trouve que le regard qu'il porte sur ce qu'il, sur ce qu'il relate, et il peut être résumé dans ce mot allemand qui dit très bien ce qu'il veut dire, qui dit « Gründlichkeit », c'est-à-dire qu'on va au fond. On va au fond de la question, on va au fond de la situation, on va au fond de la problématique. Alors ce film qui a l'air de présenter les signes extérieurs d'une certaine forme de passéisme, d'abord par l'âge des protagonistes, puis par cet appartement parisien, un peu haussmannien, avec un mobilier ancien et plein de rayonnages de livres, parce que on est évidemment chez un couple d'artistes. La femme est pianiste et professeur de piano. Lui a probablement aussi fait du piano, mais on sent aussi, c'est des choses qui sont indiquées de manière presque très minimaliste, qu'il est de ces hommes qui vivent avec des femmes plus douées qu'eux et qui, à un moment donné, ont renoncé à exercer leur art. Il y a une séquence de quelques secondes où Trintignant se met au piano. Il joue, je ne sais pas moi, quelques secondes, et puis il s'arrête et il ferme le couvercle, où il comprend. On est à un moment dans l'histoire où, depuis un bon bout de temps déjà, elle ne joue plus, mais il ne va pas la remplacer. Il ne pourra pas la remplacer. Et même, à ce moment-là, il se dit qu'il est encore plus privé d'elle par son incapacité de la relayer. C'est quelque chose qui est d'une extraordinaire densité de connotation sans qu'il soit nécessaire de le dire. Et c'est là qu'on se dit que le cinéma et cet art du XXe siècle qui a remplacé, pas remplacé, mais qui a rivalisé avec la littérature et qui a, à certains points, à un certain moment, arrive à l'égaler. Je trouve que c'est un film qui a la même beauté, la même maîtrise, la même force d'émotion qu'un grand roman. Seulement, le langage est tout différent. C'est-à-dire que si on devait faire une novélisation de ce film, on en ferait un roman psychologique, avec énormément d'indications, presque proustien. Il y a moyen d'écrire des phrases interminables sur les sentiments que doivent éprouver les personnages. À ceci près qu'ici, c'est nous qui les inventons. Et là, le cinéma a une capacité d'inspiration tout à fait étonnante lorsqu'il a la densité nécessaire, qui est très rare. C'est-à-dire que le cinéma, au fond, fait exactement l'exercice inverse de la littérature. C'est-à-dire qu'en littérature, vous n'avez que des mots, et vous imaginez des paysages, des décors, des physiques de personnages, des voix, et tout ça, vous faites le travail vous-même. Dans un film comme « L'amour », ce que vous faites, c'est vous introduire dans l'intériorité des personnages et créer vous-même les monologues intérieurs et vous-même les commentaires du romancier. C'est une expérience fascinante, évidemment, et tellement symétrique par rapport à la littérature. Alors le travail sur les détails est remarquable et complètement renforcé par une forme de mise en image qui fonctionne assez bien sur le plan fixe, même s'il y a des plans en mouvement qui sont très, très dominés, qui sont en général des espèces de déplacements à l'intérieur du petit labyrinthe que devient cet appartement, parce que plus le déplacement devient difficile, plus l'espace se complexifie, évidemment. Il y a ça, il y a les éclairages, comme je l'ai dit. Et puis alors, il y a quelque chose qui est franchement génial chez Haneke, c'est d'arriver à nous déplacer dans un espace mental du personnage, sans utiliser du tout les procédés traditionnels du cinéma pour cela, c'est-à-dire le passage au flou, le fondu enchaîné, tous ces systèmes. Il y a deux séquences de cet ordre dans le film. Le premier, c'est un cauchemar que fait Trintignant, qui sort de son appartement la nuit parce qu'il a entendu du bruit sur le palier, qui s'avance dans le palier, et puis cet espace devient étrange parce qu'il se rend compte qu'il patauge dans l'eau. On peut encore imaginer que ce soit une inondation. Et puis, il est agrippé par une main qui se porte sur son visage. Et c'est à ce moment-là qu'il s'éveille en sursaut et qu'il sort de son cauchemar. Mais la manière d'amener le cauchemar avec un extrême réalisme et une extrême cohésion entre les scènes véritablement vues et les scènes fantasmées est tout à fait étonnant. Il y a un autre moment encore plus fort. Il est assis dans son fauteuil. Et il regarde sa femme jouer du piano. Et elle joue évidemment du Schubert. L'essentiel de ce qu'elle joue, c'est du Schubert. Et puis il se retourne et il éteint les lecteurs de CD. En fait, sa femme n'était pas là. Personne ne jouait du piano, qui était sans doute fermé. Mais l'écoute de l'enregistrement lui a permis de projeter l'image de sa femme. C'est d'une simplicité extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans cet usage du cinéma que n'ont que les plus grands et qui a été très très bien inauguré, je dirais, par quelqu'un dont on n'aurait pas tendance à considérer qu'il est un cinéaste, c'est Jean Cocteau. Cocteau, dans différents de ses films, dans Le sang d'un poète, et dans Orphée, a créé des procédés cinématographiques de toutes pièces, très bricolés, très simples, et qui sont d'une extraordinaire efficacité, qui ont d'ailleurs fasciné des grands cinéastes comme Truffaut, comme Scorsese, etc. Alors évidemment, on s'est dit aussi que c'est l'œuvre d'un créateur complet, puisque Il n'a pas de scénariste, il est l'auteur de son film à tous égards, et que, tout compte fait, dans l'histoire du cinéma, les œuvres qui nous ont marqués et qui atteignent ce niveau-là d'intensité sont en général des œuvres de créateurs complets. C'est le propre du cinéma de Bergman, pratiquement tout le temps. C'est le propre de certains films de Truffaut, comme La femme d'à côté, par exemple. C'est déjà moins sûr sur quelqu'un comme Buñuel, qui est un visionnaire, mais qui a travaillé beaucoup avec des scénaristes à ses côtés. C'est aussi le fait de Polanski, peut-être plus de Polanski, dans la mesure où quand Polanski travaille en équipe, il travaille avec un autre lui-même, à la limite. Alors revenons à Haneke. Je suis allé voir le film avec une certaine hésitation parce que des films précédents de Haneke m'avaient, je dirais même, déplu. Je pense à La pianiste, par exemple. Mais ça tient peut-être à une difficulté que j'ai à entrer dans l'univers de Henriette Jelinek, de Elfriede Jelinek. C'est inspiré d'un roman de Jelinek. Et je pense que Haneke n'a pas besoin de s'inspirer d'une œuvre quelque part. Et l'autre point, c'est son film qui avait été déjà couronné à Cannes, qui était Le ruban blanc, et dans lequel il a l'ambition de traiter ce qu'on pourrait appeler l'archéologie du nazisme, c'est-à-dire comment est-ce que des esprits ont été préparés à adhérer au nazisme. Et pour cela, il décrit une petite communauté villageoise allemande d'avant, c'est-à-dire dans le premier tiers du XXe siècle. Et il lui manquait là l'apport extraordinaire des comédiens. C'est-à-dire que là, il avait travaillé avec une communauté, à mon avis, un bon nombre de comédiens amateurs, beaucoup d'enfants d'ailleurs. Tandis qu'ici, il s'appuie sur deux comédiens. Alors là, parlons-en des comédiens. Lorsque deux acteurs de la maturité de Trintignant et Riva comprennent qu'on leur lance un défi majeur et qu'ils l'assument, le point auquel Riva l'assume est indescriptible. C'est-à-dire que c'est la première fois, moi qui ai vu tant de morts au cinéma et au théâtre, que quand on voit le cadavre, au début du film d'ailleurs, de la femme, on a vraiment l'impression du cadavre. Et ce que Riva fait, c'est aussi sans doute avec un grand apport de maquilleur, etc., c'est mais un travail sur le visage, sur le regard, sur la mimique, etc. C'est vraiment rendre compte étape par étape de la dégénérescence qu'elle subit. Dans le cas de Trintignant, on est beaucoup plus avec lui qu'avec elle. Parce que c'est lui qui... au fond, c'est un film d'homme. C'est un film réalisé par un homme, joué par un homme, face à une femme qu'il aime, bien sûr, et c'est le titre est parfaitement justifié, évidemment. Mais je crois qu'il n'est pas possible de ne pas être entraîné par le jeu de Trintignant dans une aventure spirituelle extraordinaire et dont il rend très bien compte grâce à tous les éléments que Haneke a réunis dans son scénario. Je parlais tout à l'heure du pigeon. Le pigeon pénètre dans l'appartement par la fenêtre à diverses reprises. Et donc Trintignant a plutôt tendance à le chasser jusqu'au moment où, après la mort de sa femme, le pigeon se retrouve dans l'appartement. Et là, il ne cherche pas à le chasser, il cherche à le capturer. Et on se dit peut-être qu'il pourrait pratiquer sur le pigeon ce qu'il a fait sur la femme. Mais ce n'est pas ça qui se produit. Et on ne voit pas l'échappée du pigeon, mais on voit sa main qui écrit son journal, où il dit « Je lui ai rendu la liberté ». Alors ça prend une dimension gigantesque, parce que le pigeon, c'est quand même une image dans l'iconographie en grande partie chrétienne de l'esprit, et même de l'Esprit Saint, que c'est aussi une figuration de l'âme, parce que là le français évidemment... Et plutôt synthétique de mettre âme dans amour. Tous les autres titres simples du film ne rendent pas la même chose que cela. Et on ne nous dit rien de ce qu'il advient de l'homme, sauf que il y a cette extraordinaire scène avec le pigeon, et la séquence finale est confiée à la troisième protagoniste principale, qui est la fille du couple, qui est Isabelle Huppert. Et là, en trois séquences, Isabelle Huppert rassemble quelque chose qu'on pourrait appeler véritablement la faillite spirituelle de notre époque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'absorber le drame qui se vit là. En grande partie, bien sûr, et ça se remarque dans ce qu'elle dit, par son terrible utilitarisme, par son absence de spiritualité. Et ça, c'est un des discours sous-jacents du film, évidemment. C'est que nous vivons une époque, et en particulier en Occident, et je dirais principalement en Occident, à la différence de l'Orient, à la différence de l'islam, insistons-y, dans laquelle l'extraordinaire prétention à pouvoir faire l'économie de la transcendance amène à une perte profonde, même chez des êtres, et c'est le cas du couple, qui sont nourris de culture, qui sont dans un grand dans un grand voisinage avec l'art et en particulier la musique, ce qui est aussi le cas de leur fille d'ailleurs, qui est aussi musicienne. Il y a là un questionnement qui devient d'une urgence d'autant plus grande, évidemment, que la vraie question d'aujourd'hui est celle de la longévité. Et cette question, on en parle tout le temps en termes politiques, économiques, hein, puisque entre 1960 et aujourd'hui, comme disent les experts en matière de retraite, eh bien, un retraité de 1960 avait en moyenne 12 ans d'espérance de vie. Un retraité d'aujourd'hui en a le double. Alors, on aborde cette question en termes financiers, en disant est-ce que la société va être capable de financer cela. On ne l'aborde pas du tout en termes humains, en termes moraux, en termes philosophiques. Et pour moi, le sens premier de ce film, c'est d'amener à regarder en face non seulement le drame dont les images sont le reflet, mais aussi cette question absolument centrale.